On a vu la dernière fois qu'on était associé à ce règne, on avait vu donc chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, puis on avait fait un petit peu l'inventaire jusqu'à voir aussi que tous les décrets de Dieu étaient dans sa parole et que nous pouvons les confesser, que ces décrets deviennent parole de Dieu pour nous et que les promesses de Dieu et ce que Dieu dit, eh bien, soient nôtres. Ce matin, j'aimerais attaquer avec vous un autre chapitre du royaume avec un autre de ces grands textes. C'est dans Matthieu 16. Normalement, si je vous dis Matthieu 16, vous devriez presque deviner quel texte on va lire ensemble. Les versets 16 à 20. Simon Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit: « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon Église. » Que les portes du séjour des morts ne prévaudiront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Je m'arrête là. Une belle profession de foi. Il leur dit: « Qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit: « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Là encore, une de ces portes d'entrée dans le royaume. Croire dans son cœur, confesser de sa bouche: « Oui, Seigneur Jésus, tu es le Christ, Sauveur, Seigneur, tu es le Fils du Dieu vivant. » J'ai tellement aimé la manière un homme a écrit un livre qui s'appelait « Il parle en d'autres langues ». C'était un journaliste américain, il a fait une enquête dans tous les milieux charismatiques parce qu'il était intrigué au sujet de ce don du Saint-Esprit. Et en fréquentant tous ces milieux évangéliques, pentecôtistes, charismatiques, un jour qu'il marchait dans la rue, le Seigneur lui a dit: « Mais est-ce que tu es sauvé ?» Puis finalement, sa réponse était: ben finalement, je ne sais pas trop. Et ça me l'a dit: « Mais est-ce que tu sais au moins comment entrer dans ce salut ?» Et puis, il lui est revenu cette confession de l'apôtre Pierre, de Simon Pierre. Et puis là, dans la rue, il a dit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils du Dieu vivant. » Et il dit: « Quelque chose s'est ouvert en lui. » Et cet homme est entré dans quelque chose de nouveau dans sa vie. Comment est-ce que confesser Jésus-Christ est une clé, est une porte d'entrée pour nous, pour le connaître? Est-ce que ce matin, nous avons l'envie, le courage, la foi, le désir de faire nôtre cette proclamation de Pierre et de pouvoir dire en Église: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. » Voilà, ça c'est un des credos, une des proclamations de l'Église. Est-ce que cette clé, elle ouvre quelque chose pour nous? Le fait qu'on ait ce texte, « Je te donnerai les clés du royaume », ça m'a interpellé sur ce texte sur les clés. Alors, j'étais voir dans l'Écriture, je fais un petit intermède sur les clés. On a 7 textes dans l'Écriture qui nous parlent de clés. Alors, j'aimerais les lire avec vous. Sur 7 textes, il est question de 5 clés dans l'Écriture. On en a vu une déjà, les clés du royaume. Il y en a d'autres. On peut lire ensemble dans Ésaïe, au chapitre 22. et le verset 22. Allez, je vais lire à partir du verset 20. « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture. Je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul ne l'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles, ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins, des vases, etc. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. » On a deux textes dans l'Écriture qui nous parlent de cette clé de la maison de David. La clé d'une maison, en principe, elle ouvre la porte d'entrée. On peut entrer, on peut sortir. Donc, elle donne le pouvoir sur toute la maison. Aujourd'hui, qui a cette clé? Où est-ce qu'elle est? Eh bien, je crois que la clé de cette maison de David, eh bien, elle est entre les mains du Seigneur Jésus. C'est lui qui a les clés sur Israël, sur Juda, sur Jérusalem. C'est lui qui, en son temps, en son heure, va résoudre beaucoup de problèmes insolvables, insolubles à l'échelon humain. Jésus est aussi cette clé de la maison de David. Il y a un autre texte, dans Apocalypse, au chapitre 3, au verset 7, qui reprend cette notion. Apocalypse 3, 7, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. » Celui qui ouvre, que personne ne ferme. Celui qui ferme, et personne n'ouvre. Dieu a la puissance sur ses ennemis, c'est ce que nous dit ce texte. Il est question aussi de la synagogue de Satan, etc. Dieu va donner l'autorité, le pouvoir à ceux qui sont dans ce lieu pour vaincre Satan. Mais voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Jésus est celui qui aujourd'hui a cette clé. Et c'est lui qui va s'en servir pour ouvrir, pour fermer toutes ces choses parfois qu'on a de la peine à comprendre concernant Israël, Juda, Jérusalem. Je referme cette parenthèse de la clé de David. Une autre clé dans l'Écriture, une troisième, c'est dans Luc au chapitre 11. Ça, on fait un petit inventaire ensemble de ces clés. Peut-être qu'elles vous ont intrigué. Moi, il y a toujours plein de choses qui m'intriguent, donc j'aime bien savoir de quoi il retourne. Luc 11, verset 52. « Malheur à vous, docteur de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. » Là aussi, dans leur compréhension de la loi de Moïse, des choses de Dieu, voilà, il y a eu aussi un temps où les choses ont été obscurcies, ont été plus difficiles. Et quand Jésus vient, eh bien, il se confronte aux docteurs de la loi, il leur dit « Vous aviez la science ?» La sagesse, commencement de la sagesse, la crainte de Dieu. Avoir un cœur pauvre, un cœur brisé, contrit, l'Écriture dit c'est plus mieux que les sacrifices, ou ça va avec les sacrifices. Est-ce que l'Église aujourd'hui a aussi cette clé de la science ? pendant tout un temps, il y a des domaines qui ont été perdus. Les gens ne savaient plus comment être sauvés. Il y a une religion qui a obscurci l'évangile. Pendant des siècles, tout ce qui concerne le message de l'Esprit-Saint, on cherchait la clé, on ne l'avait plus. Il n'y a pas très longtemps qu'elle a été retrouvée. Que faisons-nous de cette clé aujourd'hui ? Pour ça, c'est important. Cette clé que Pierre a fait fonctionner, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus-Christ, Sauveur, Seigneur. Là, il y a une clé de la science. Et est-ce que nous pouvons aider nos contemporains aujourd'hui ? Est-ce que nous pouvons être témoins de l'Évangile et faire fonctionner cette clé de la science ? La sagesse est en Jésus-Christ. La crainte de Dieu est en Jésus-Christ. Toute la science, tout le savoir, toute la connaissance, toute l'intelligence, tout est en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je veux déjà faire fonctionner cette clé, entrer moi-même, et puis montrer le chemin aux autres pour y entrer ? Une autre clé dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Puis petit à petit, eh bien, on va faire le tour de ces cinq clés. Je lis au verset 17. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. » Et du séjour des morts. Alléluia. Par sa résurrection, Jésus-Christ a fait entrer ceux qui croient en lui dans quelque chose de nouveau. Nous avons la vie éternelle par et en Jésus-Christ. L'immortalité par le message de l'Évangile. Je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles. Jésus est vivant à la droite du Père. Ce matin, il passe parmi nous, il pense à nous, il prie pour nous, il nous touche de différentes manières. Tout ce qui est du domaine de la mort et de la vie, c'est lui qui a la clé. Il a les clés de la vie, s'il a les clés de la mort. En Jésus-Christ, nous avons les clés de la vie éternelle. Je vous laisse réfléchir à ces choses, je ne vais pas plus loin. Apocalypse chapitre 9 et le verset 11. Un texte un peu difficile, on est dans les jugements, dans les sanctions que Dieu apporte à la terre. Il est question d'un jugement, d'une cinquième trompette et au verset 11, il nous est parlé de choses un peu compliquées, de puits de l'abîme, de sauterelles. Quelqu'un m'a donné cette image un jour. C'était un petit peu comme des esprits de dépression qui agissent chez les gens pendant quelques mois. Ces choses-là agissent dans le monde encore aujourd'hui. Et au verset 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et Apollyon, et en grec Apollyon. Et au verset 1, il nous est dit « Le cinquième ange sonna de la trompette, je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. » Là aussi, c'est des clés, ce sont des jugements qui s'exercent sur la terre. En Jésus-Christ, nous sommes passés du jugement à la paix, à la joie. En Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Après, c'est des textes difficiles. Mais la clé du puits de l'abîme, si elle est ouverte pour certains, pour nous, elle est fermée. En Jésus-Christ. Là aussi, je vous laisse avec ces textes un peu difficiles. On voit la dernière clé dans Apocalypse au chapitre 20. Les versets 1 à 3. « Puis je vis du sang descendre du ciel, un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma, scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu le temps. Jésus a toutes les clés en main. Et si pour un temps, cette clé de l'abîme est ouverte, un jour, cette clé va fermer et va lier Satan pour 1000 ans. Les êtres humains pourront dormir un peu plus tranquille. Aujourd'hui, il est encore agissant. Jésus attend à la droite du Père que le Père mette tous ses ennemis sous ses pieds. Un jour viendra une victoire totale. Notre sécurité, c'est que Jésus a toutes les clés. Il a la clé de David pour tout ce qui concerne Israël. Il a les clés de la mort, les clés de la vie, les clés de la résurrection. Il a les clés de l'abîme. Un jour, il va sceller sa victoire sur tous ses ennemis. Il a les clés de la science et il nous permet d'entrer dans des choses extraordinaires. C'est quelque chose de profond, de puissant et de grave qui a été dit à Pierre. Voici, je te donne les clés du royaume de Dieu. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Cette confession de Pierre est quelque chose d'extraordinaire. Elle nous permet d'entrer dans le salut. Elle permet à quiconque qui croit que Jésus-Christ est le Fils du Dieu vivant, elle lui permet de faire un pas d'entrée dans le royaume de Dieu. Ces clés nous appartiennent. Elles peuvent lier, délier des situations, des êtres humains. Jésus, dans l'évangile de Jean, nous dit plusieurs choses sur lui-même. Je suis la porte des brebis. Je suis celui par qui on rentre dans le royaume. Je suis le berger des brebis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Toutes ces choses sont aussi des clés. Et ça peut être intéressant pour nous de reprendre toutes ces paroles de Dieu, toutes ces citations de Jésus sur ce qu'il est, pour en faire un parcours de foi, de confession de foi, de prière, pour s'approprier tout ce qu'est Jésus. Tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es la porte. Tu es le berger. Tu es mon berger. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es mon chemin. Tu es ma vie, tu es ma liberté, tu es ma joie, tu es ma paix. Je suis la lumière du monde. Seigneur Jésus, tu es la lumière du monde. Comment faire fonctionner cette clé dans nos vies? Bien, je pense que c'est de s'approprier toutes ces paroles de l'Écriture, de pouvoir les mettre en vis-à-vis, en face à face de nous, et de pouvoir nous les approprier, pouvoir les croire de notre cœur, pouvoir les confesser de notre bouche. On a une parole ce matin qui disait « résiste », une autre parole qui parlait d'aller dans nos profondeurs. Comment, avec l'Écriture, je peux ouvrir tous ces différents domaines que Dieu a placés en moi. L'Écriture peut nous aider à ouvrir. Nous avons la clé de la science. On peut ouvrir, Dieu peut ouvrir pour nous des domaines de révélation. Continuer de faire des choses nouvelles dans nos vies. On en a constamment besoin. confesser Jésus, c'est pas seulement le jour où je l'ai rencontré. C'est tous les jours de ma vie. Confesser ces hymnes de louange. J'aime tellement les écrits de Paul quand il commence ou quand il termine par des paroles de gloire au Dieu immortel, au roi des siècles, des louanges qui sont, je pense, qui sont venues spontanément dans son cœur et qu'il nous a livrées. Et comment la première Église a mis pour moi toutes ces confessions, coups de poing, pour abattre l'ennemi. Tu es le Christ, Fils du Dieu vivant. Tu es l'unique. Tu es le bien-aimé. Il y a des clés que Pierre a eu du mal à faire fonctionner. Trois fois, Dieu lui a donné une vision. Pierre, tu vois tous ces animaux, tue et mange. Seigneur, pas de ça. Trois fois. Et Pierre était à la rencontre de Corneille. Il a ouvert le salut aux païens. Et en même temps qu'ouvert le salut en Jésus-Christ, il a ouvert à la présence de l'Esprit-Saint. Toute la maison de Corneille a été remplie, a été baptisée du Saint-Esprit. Il y a des clés qui sont importantes dans nos vies. La clé du salut en Jésus-Christ. Est-ce que j'ai ouvert, est-ce que j'ai fait fonctionner cette clé du don de l'Esprit ? Pierre a simplement repris un texte de l'Ancien Testament de Joël. « Voici, dit Dieu, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair, sur les serviteurs, sur les servantes. » Et à partir de là, dans la maison de Corneille, quelque chose s'est répandu sur toute la surface de la terre. Le discours de Pierre a ouvert quelque chose à Jérusalem. Le jour de la Pentecôte, 3000 conversions. Il a ouvert à la compréhension, à l'annonce de l'évangile de Jésus, tous ceux qui étaient rassemblés à Jérusalem, juifs, grecs, de toutes sortes de contrées. Dieu a donné des langues nouvelles. Les gens ont entendu parler des hommes saints dans leur propre langue. Et Pierre, par deux fois, là, a ouvert, a utilisé ses clés du royaume. Il a délié des peuples, des situations, des circonstances. Je vous laisse réfléchir à ces clés du royaume. Les autres, bon, il y en a peut-être d'autres qui sont plus compliquées, qui demanderaient encore du travail pour entrer dans leur compréhension. Mais déjà, si on pouvait saisir que ce matin, pour chacun d'entre nous, comme Pierre, nous avons ces clés du royaume en Jésus-Christ, pour notre salut, pour être remplis de l'Esprit, pour avoir une vie remplie de révélations, remplie de puissance. Le Seigneur disait ce matin, je t'ordonne, résiste. Il y a un autre texte dans les psaumes qui est aussi extraordinaire. « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » Prenons ces clés. Il y a une victoire dans nos vies aussi sur la mort éternelle. Je reprends un petit peu en avant. Marcus, Matthieu. Moi, je te dis que tu es Pierre, que sur ce roc je bâtirai mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Jésus a les clés du séjour des morts. Pour nous qui croyons, il a les clés du séjour de la vie éternelle. Prenons-les, saisissons-nous. Entrons dans ces choses extraordinaires. Jésus reprend la parole, dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Nous sommes heureux. Ce matin. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Entrons ensemble dans cette compréhension des clés du royaume. Elles sont aussi à nous. Elles nous appartiennent aussi pour délier des choses dans nos vies, mais dans la vie de ceux que nous rencontrons aussi. Soyons des ouvriers justes, des ouvriers de paix, des ouvriers qui aident les autres à recevoir cette lumière, cette vie. On veut prier ensemble. Père Céleste, merci d'avoir révélé à Pierre que ton Fils, le Christ Jésus, est bien Fils de Dieu. Et nous voulons le proclamer encore ce matin. Merci pour ce nom glorieux que tu donnes à chacun. Merci de nous donner ces clés de ton royaume en toi. C'est toi qui la portes, Seigneur Jésus. C'est toi qui es mon berger, qui est notre berger, qui est notre berger, à chacun, à tous. C'est toi qui es le chemin, la vérité, la vie. C'est toi qui es ma lumière, qui est la lumière du monde. C'est toi qui nous aide à résister. C'est toi qui nous ordonne d'être puissants, d'arrêter de regarder au passé, mais de vivre aujourd'hui avec toi, de se saisir de ces promesses, de ces décrets, de ces paroles vivantes. Merci pour ta parole vivante encore au milieu de nous. Merci parce que semaine après semaine, tu nous donnes l'occasion de confesser celui que tu es, ton œuvre de réconciliation, ton œuvre de vie dans chacune de nos vies. Merci de nous libérer les uns et les autres avec toi, pour toi, en toi, comme toi. Amen.
Amen. Voilà une parole qui va dans le sens de ce qui a été apporté là aussi. Dieu qui veut accomplir son œuvre et qui détient toutes les clés. Est-ce que nous acceptons qu'il vienne ouvrir des portes qui sont fermées ? J'aimerais entrer dans ce temps avec vous de partage du pain et de la coupe. Je n'ai pas averti ou sollicité de personne, mais est-ce que je peux demander à Daniel éventuellement de se préparer pour le service du pain ? Est-ce que Dalila, tu accepterais de te préparer pour le partage du pain et de la coupe ? Merci. Désolé de ne pas vous avoir prévenu avant. J'aimerais, en introduction de ce texte, ne pas faire de prédication, c'est ce qu'on avait évoqué, mais juste lire deux textes. Le premier, c'est dans le livre de l'Exode, au chapitre 16, lorsque le peuple d'Israël est entré dans le désert après sa libération. Il est dit qu'au chapitre 16, le soir, des cailles montèrent et couvrirent le camp, et au matin, il y eut autour du camp une couche de rosée. Quand cette couche de rosée se leva, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu, de granuleux, quelque chose de menu comme le givre sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Qu'est-ce que c'est ?» Et en fait, ce qu'ils vont découvrir, c'est que Dieu, pendant 40 ans, tous les matins, et puis pour deux jours au moment du sabbat, va répandre sur le désert quelque chose qui va les nourrir. Alors quand ils sont sortis, la première fois qu'ils ont ouvert la tente, ils ont regardé et ils ont vu quelque chose de bizarre et ils ont dit « qu'est-ce que c'est ?» Et c'est resté le nom de ce qu'ils ont trouvé dehors. Parce que « qu'est-ce que c'est ?» en hébreu, c'est « manou ».« Manou ». Qu'est-ce que c'est ? Et en fait, après, ils ont pris l'habitude de dire « le matin, quand ils se levaient, ils ouvraient dire « Ah, où tu vas ? Bah, je vais chercher du qu'est-ce que c'est ?» Moi, j'aime bien cette... Parce qu'en fait, cette nourriture correspond à une question. Qu'est-ce que c'est ? C'est mystérieux, on ne sait pas trop. Et en fait, quand on lit l'évangile de Jean, au chapitre 6, il y a Jésus qui parle du pain de vie. Et il dit aux Juifs, il dit, mais voilà, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel, c'est le pain de Dieu, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et il fait référence à cette manne, à ce qu'est-ce que c'est. Et en fait, qu'est-ce qui nous permet de prendre ce pain et cette coupe ce matin ensemble ? C'est parce que chacun pour notre part a cette question. Qu'est-ce que c'est ? Le Saint-Esprit nous a donné la réponse. C'est le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui nourrit ma vie? Qu'est-ce qui est fidèle chaque jour de mon existence? Qu'est-ce qui est envoyé du ciel sur la terre pour me donner la vie? Qu'est-ce que c'est? Et chacun pour notre part, nous disons c'est Jésus-Christ. Nous partageons ce pain et cette coupe parce qu'à cette question, qu'est-ce que c'est? Nous pouvons répondre. Parce que le Saint-Esprit nous le dit. Ton salut, ce pain vivant descendu du ciel, c'est le Fils de Dieu. Les Juifs qui entendaient parler de ce pain descendu du ciel lui dirent « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain !» On en a envie. Alors aujourd'hui, est-ce que nous pouvons dire « Amen » à cette parole de Christ qui dit « Moi, je suis le pain de vie. » Je nous invite là aussi à nous incliner, à faire le point avec nous-mêmes pour savoir si aujourd'hui, pas hier, pas le mois dernier, pas il y a 10 ans quand j'ai pris mon baptême, mais si aujourd'hui, Christ est pour moi le pain de vie. Prenons un temps de silence devant le Seigneur. Daniel, tu veux bien rendre grâce pour cette table qui est dressée, pour ce pain, cette coupe que nous pouvons partager ensemble.
Oui, merci Seigneur pour ce pain de vie, Seigneur. Merci pour ce pain que tu nous offres, qui représente ton corps qui a été offert pour nous, Seigneur. Merci pour ce vin qui représente ton sang qui nous purifie, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur. Que ce ne soit pas un geste comme cela, mais que ce soit vraiment quelque chose qui représente tout ce que tu as fait pour nous, pour notre salut.
Amen. Dans la nuit où il fut livré, le Seigneur Jésus prit du pain, et après l'avoir rompu, rendu grâce, il rompit et dit « Ceci est mon corps ». Je vous en prie, partagez ce pain, pour qu'ensemble nous puissions le partager aussi. Qui peut prendre le repas du Seigneur? Celui qui, face à cette commémoration, ce pain et cette coupe, à cette question, qu'est-ce que c'est, peut répondre. C'est un rappel que le Père a envoyé le Fils, que le Fils de Dieu est venu pour moi, qu'il a marché sur cette terre, qu'il s'est donné et livré pour moi. Qu'il a été crucifié, enseveli, mais qu'il est ressuscité d'entre les morts. Qu'est-ce que c'est? C'est le rappel qu'un jour, Christ reviendra et qu'il emmènera avec lui son Église. Qu'est-ce que c'est? Si à cette question tu peux répondre, alors tu peux partager ce pain et cette coupe. S'il y a pour toi des doutes, si Christ n'est pas ou plus celui qui est dans ta vie, ton Sauveur et ton Seigneur. La parole, au travers de Paul, dit que chacun s'évalue lui-même, qu'il prenne et partage ce repas ou qu'il s'en abstienne. Amen. Tu peux la lire.
Thank you.
le proclamons, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, c'est la réalité. Tu es celui qui règne maintenant dans les lieux célestes, mais aussi sur cette terre. Et même si l'adversaire a encore pour un temps la possibilité d'agir, tu es celui qui règne. Tu es assis à la droite du Père. La croix est ton marchepied. Et nous proclamons que sur cette terre, dans ce monde et dans nos vies, nous te souhaitons comme Seigneur. Nous t'accueillons comme Seigneur. Nous te proclamons comme Seigneur. Alléluia. Que ce que nous avons entendu ce matin, par les paroles apportées, par ta parole apportée, eh bien que cela nous fasse entrer dans cette dimension. Tu as les clés du royaume de la vie. Tu as les clés, là aussi, du jugement. Tout t'appartient et tu as toute autorité. Alors Seigneur, que nous puissions entrer dans cette dimension de vie et de liberté qui se trouve en toi. Alléluia. Nous te prions pour ceux qui ce matin n'étaient pas avec nous. Nous pensons particulièrement à Patricia et à ses parents. Seigneur, nous te prions pour que tu sois là aussi dans cette famille. Tu vois la souffrance, tu vois la maladie, tu vois les questions là aussi qui se posent. Merci de poser ta main sur Patricia, sur Pascal, sur les parents de Patricia. Accomplis ton œuvre, Seigneur. Nous te le demandons. Manifeste ton amour dans cette famille. Répands ta paix. Assure chacun de ta présence, de ton amour pour chacun d'entre eux. Merci de bénir ceux qui sont absents, qui travaillent ou qui sont fatigués ou malades. Seigneur, nous voulons là aussi te demander de bénir ton Église en esprit et en vérité et de nous conduire les uns et les autres à la fin de ce temps pour que tu nous accompagnes véritablement. Que ta grâce soit avec nous. Amen. Amen. Nous voulons penser à Patricia et Pascal, dont les parents de Patricia sont gravement malades. La maman de Patricia est quasiment non-voyante. Son papa est malade et a assumé le quotidien longtemps. Et là, il est dans un temps, là aussi, de perte de capacité. Et pour Patricia, c'est une véritable souffrance, là aussi, pour une fille, de voir ses parents en difficulté, qui sont toujours chez eux, mais qui sont de moins en moins autonomes. Je vous invite vraiment, pendant ces heures, ces jours qui viennent, à prier pour Patricia, pour les parents de Patricia qui sont au Seigneur. Ils ont vécu toute leur vie dans le Finistère, fidèlement, fidèles avec leur Seigneur et leur Dieu. Je vous invite vraiment à prendre du temps dans la prière, qui est vraiment une chaîne de prière qui se constitue pour prier pour Patricia, que la paix de Christ soit avec elle, pour les enfants aussi, et pour les parents de Patricia. Voilà pour cette information. Au niveau de la vie de l'Église, il y a les réunions de prière cette semaine avec louange, adoration, travail autour des chants. Même si vous avez l'impression qu'on est parfait au niveau musical, ce n'est pas le cas. Hein, chef ? Presque. Mais il nous aide. On remercie le Seigneur d'avoir aussi donné à l'Église des hommes, des femmes, qui ont des compétences pour nous aider à avancer dans la louange et l'adoration. Vraiment, on est très reconnaissants. On remercie aussi Abiba, qui est de l'autre côté avec les enfants, me semble-t-il, parce qu'il n'est pas là, et qui a pris du temps avec les enfants ce matin. Prions pour ceux qui s'occupent des jeunes dans notre Église. C'est important aussi de les encourager, qu'ils se sentent entourés par nos prières. Au niveau des annonces, est-ce qu'il y a rendez-vous avec la Bible ? Groupe de Christine, non ? Groupe de Concarneau ? Mais il y a relâche des rendez-vous avec la Bible cette semaine. On sent que l'été approche, hein ? Un petit peu. Hein ? Et les déménagements aussi. Mais prions pour les animatrices, là aussi, des groupes de rendez-vous avec la Bible. C'est aussi un temps important de liens, de rencontres, d'enseignements où le Saint-Esprit agit. Voilà pour les informations. Oui, vas-y.
Voilà, donc Catherine a fait une petite liste pour vous inscrire, pour donner un coup de main à Elisabeth et puis Laurent quand ils vont déménager. En bleu, fin juin, en jaune, juillet. Julien, donc nous on s'est déjà inscrit dessus. Je vais l'afficher là-bas au fond. Donc n'hésitez pas à bien réfléchir et à voir quand est-ce, quand et comment vous pouvez donner.
Juste, tu peux dire quelles sont les actions ou ce à quoi on peut participer pour que chacun puisse aussi.
Ménage, fenêtre, velux, volet, petit bricolage, bricoler les trous, reboucher les trous, décrocher les lampes, emballage, vaisselle, batterie de cuisine, etc. 25, 26, 27 juin. Jeudi 28, 29, 30 juin, Concarneau, garage de Bonnemont, transport de carton. Le 6 juillet, les transports de carton et petits meubles. Le 7 juillet, pareil. Le 9 juillet, début ménage. Et lundi 9 juillet, mardi 10 juillet, donne un coup de main pour nettoyer la maison de Concarneau. Vous avez toutes les infos.
C'est détaillé, hein, hein. Bricoler les trous, ça ne me dirait pas trop grand-chose. Reboucher, oui, mais bricoler les trous, je ne voyais pas. Si moi, on me donne des consignes comme ça, vous savez, c'est risqué. Autre chose ?
Oui. Il y aura bientôt l'AG de la passerelle. Donc, Carval, ceux qui étaient déjà venus les autres années, on peut y aller ensemble avec Catherine, on ira. Je crois qu'il y a Corinne. J'ai le pouvoir de Patricia Pignou. Si vous êtes, faites partie de la passerelle, vous ne pouvez pas y aller. J'ai le pouvoir ici à remplir.
Voilà, un rappel quand même, qu'est-ce que c'est que l'association La Passerelle ?
Voilà, c'est l'association d'entraide protestante de Dominique Sabel et puis tous ses amis pour aider donc tous les migrants sur Val, le Morbihan, surtout sur la région de Val.
Voilà, et ça s'étend aussi, puisqu'il y a des projets en l'air sur lesquels on travaille, mais l'association de la Passerelle est vraiment une association importante qui soutient, encourage, aide au quotidien les migrants qui sont dans des situations vraiment très, très difficiles.
Je laisse le pouvoir ici, si vous en voulez d'autres.
Voilà. Donc, autre chose ? Alors. Oui, je ne dis pas quand est-ce que c'est. L'Assemblée Générale, ça aura lieu le samedi 16 juin à 17h à la Maison des Associations à Vannes. Donc, samedi 16 juin à 17h. Alors, juste l'église locale, dans ce samedi-là, organise aussi un temps d'ouverture autour du match de football. France, ça doit être Danemark, je crois. À midi, c'est aussi une manière d'ouvrir l'église et d'inviter des gens qu'on connaît sans qu'il y ait d'activité entre guillemets spirituelle, mais de montrer que l'église est une église aussi ouverte et installée dans son environnement. Et donc, si vous voulez voir le match de football, bah, vous pouvez venir à 11h, parce qu'à partir de 11h, normalement, il devrait y avoir des jeux en bois qui sont posés, notamment pour les enfants, les jeunes et les adultes, parce que c'est des jeux en bois que j'ai utilisés pour une fête au niveau de mon travail. Donc, 11h, voilà, on est là. Midi, démarrage, on a toute l'installation normalement qui permet de regarder le match de foot ensemble et d'inviter des non-chrétiens à venir avec vous. Il n'y aura pas d'annonce de l'évangile, hein. C'est vraiment un accueil pour montrer que l'Église, bah, c'est aussi une Église qui vit au quotidien. Donc venez le samedi 16 à midi avec des amis. Et puis il y aura un temps un petit pot pour grignoter quelque chose sur la mi-temps. Et puis après, on aura un petit café-gâteau pour se séparer, soit dans la tristesse et l'abattement. Mais il était dit que normalement, même si on perd, on doit rester dans la joie. Et puis on sera sur ces phases-là, sur les trois premiers matchs de l'équipe de France. Ça permet simplement, moi j'ai des amis chrétiens, puis d'autres qui ne le sont pas. J'espère pouvoir les inviter, simplement pour qu'ils voient que l'Église et les chrétiens, c'est des personnes comme toutes les autres, et qu'on peut se réjouir aussi de choses toutes simples. Voilà, donc samedi 16 à 11h, rencontre ici, et puis ouverture pour le match de foot, et puis midi, le match de foot, et après, à 17h, on rebascule sur des choses voilà, plus en lien avec l'activité de l'Église, puisqu'il y a cette Assemblée Générale de l'association Passerelle. Est-ce qu'il y a d'autres informations que j'ai oubliées ? Ah, les anniversaires. Dans notre église, on signale les anniversaires des personnes qui sont là, simplement, non pas pour leur offrir un cadeau, mais simplement parce qu'on se dit, bah, cette semaine-là, on va prier particulièrement pour ces personnes. Ça permet de prier régulièrement pour des gens aussi qui peuvent être un peu plus loin. Donc, l'anniversaire d'Esther. La fille, voilà, de...
C'est le 6.
Viviane. Le 6 juin, alors elle est à Paris, c'est ça? Elle travaille dans le milieu bancaire? Non? Ah non? C'est pas tout à fait la même chose. Mais je sais qu'elle était partie faire ses études dans une banque à un moment donné, non? En Suède, voilà. C'est pour ça qu'il faut la suivre, Esther. Donc là, elle travaille dans une boîte de cirage. Famaco. Ouais. Alors, elle a pris son baptême dans l'église il y a quelques années de cela. C'est la fille d'Esther. Elle a quel âge maintenant? 27 ans. Voilà, on peut prier pour Esther, pour que voilà, le Seigneur ne la lâche pas comme on l'a chanté tout à l'heure, mais qu'il continue à l'accompagner dans sa vie de tous les jours. Esther, c'est un nom qui va rester. Esther. Voilà. On a fini avec les informations? Oui? Issa, on est content de l'avoir avec nous. Tu es là. On te reverra peut-être à un culte. En tout cas, on se réjouit aussi. Tu repars début juillet, c'est ça? À Montréal. Je reverrai Montréal. C'est ça? Voilà. Bon dimanche à tous. Ah oui, attends, oh là, attendez. On ne bouge pas. Marceline, tu peux venir devant? Ah, quand même. On a un nouveau membre d'église. Il pèse combien? Elle.
Combien elle pèse? 3 kilos. Et son prénom? Lucia. C'est l'italien. Lucia. Ah ben, on vous présente Lucia, la fille de Marceline et de Sébastien. Bastien. Voilà. Et qui est né quand alors? Le 9 mai. D'accord. Vous pouvez vous lever pour votre prier pour la famille. Tu vas bien? Alléluia. Lucia. D'accord. Seigneur, nous voulons nous réjouir pour l'arrivée dans ce monde de Lucia. Nous savons qu'il n'y a pas de hasard et que chaque cœur qui bat, chaque enfant qui naît est aussi une action de ton amour dans ce monde. Alors Seigneur, nous voulons te présenter cet enfant. On aura l'occasion de le faire de manière plus formelle, mais simplement te dire merci pour le bon état de santé de Lucia et de Marceline. Et te demander vraiment, Seigneur, de bénir cette famille en ton nom et de faire du bien là aussi à toute la famille par l'arrivée de cet enfant. Merci de poser ta main et de bénir à cause de ton nom. Amen. Bienvenue, Lucia. Bravo. Félicitations. Voilà, nous vous souhaitons un bon dimanche.